Bien chers frères et sœurs, bonjour. Nous lisons dans le livre du prophète Amos, au chapitre 2, les versets 11 et 12, cette parole de l'Éternel : « J'ai fait se lever d'entre vos fils des prophètes et d'entre vos jeunes gens des Naziréens. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël ? Dit l'Éternel. Et vous avez fait boire du vin aux Naziréens, et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. » Que n'avait pas fait l'Éternel pour son peuple ? L'histoire passée prouvait l'intérêt que Dieu portait à Israël. Il avait exterminé les Cananéens devant lui, il avait anéanti la puissance de Satan s'opposant à ce qu'il possède le pays de la promesse. Malgré leur taille, malgré leur puissance, ils n'avaient pu tenir tête à Israël. Ils avaient été exterminés, racines et fruits, et ne valaient pas mieux qu'un tronc d'arbre desséché, destiné au feu. En effet, l'Éternel déclare par la bouche d'Amos, dont le nom signifie « qui porte le fardeau », « J'ai détruit devant eux les Amoréens, dont la hauteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits en haut et leurs racines en bas, et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. » Amos, chapitre 2, les versets 9 et 10. Dieu leur rappelle ici comment il avait finalement procuré la victoire en accomplissant à leur égard l'œuvre du salut. « Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. » Pensons à ce que le Seigneur a fait pour nous. Ne nous a-t-il pas fait monter de notre pays d'Égypte ? Je veux dire par là, ne nous a-t-il pas délivrés de l'esclavage de Satan, de l'esclavage du monde, de l'esclavage du péché ? Quelle belle œuvre de rédemption dans nos vies ! Nos mouvements de Pentecôte mondiaux ont eu une genèse glorieuse, illustrée de puissantes convictions de péché, de régénération profonde, de conversion radicale, et de consécration entière à Dieu. L'horreur du péché, la redoutable sainteté de Dieu, la profondeur de son amour et de sa grâce, la puissance de l'œuvre accomplie par Christ à la croix, l'efficacité de son sang, tout cela était l'essence de la prédication des pionniers du pentecôtisme naissant ou renaissant. Cette prédication était appuyé de guérisons, de miracles et de prodiges. Amos dit encore de la part de l'Éternel : « Je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. » C'est la discipline de Dieu qui suit la rédemption. Sans cette discipline, le peuple de la Nouvelle Alliance ne pourrait atteindre sa terre promise, je veux dire la vie spirituelle abondante en Christ, au risque d'en contrarier plusieurs, y compris les auteurs de certains de nos cantiques. Je précise que Canaan n'est pas l'image du ciel, mais celle de notre héritage en Christ ici-bas. Toutes les générations de croyants authentiques auraient beaucoup à dire sur l'école du désert au cours de laquelle Dieu sanctifie les siens. Une fois le peuple d'Israël installé dans sa nouvelle demeure, la terre promise, Dieu l'avait visité par les instruments de son esprit, avant tout par les prophètes qui, depuis Samuel surtout, ont abondé en Israël. Ces prophètes, porteurs de la parole de Dieu, avait pour mission de ramener le peuple par la repentance au Dieu dont il s'était malheureusement détourné, abandonnant sa loi et ses préceptes, et les rendre attentifs à ses jugements et à sa miséricorde. Dieu avait aussi suscité parmi les jeunes gens des Naziréens, des hommes consacrés au service de Dieu. Leur exemple prêchait l'abstention des souillures du monde, le refus de tout ce qui produit l'ivresse, en satisfaisant les convoitises de la chair, en un mot, une vie sanctifiée. En effet, la parole de Dieu déclare dans le livre des Nombres, au chapitre 6, les versets 2 à 4, « Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréat pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. » Naziréat dérive d'un mot qui signifie « se séparer des autres, se consacrer ». Mais lui, le peuple d'Israël, qu'avait-il fait de ses dons divins ? Ils avaient fait boire du vin à ceux qui ne devaient pas en boire. Ils avaient saccagé une voie de consécration, pourtant magnifique. Ils avaient encouragé ces jeunes gens au mal, à la rupture de leur consécration à Dieu. Ils avaient fait violer leur vœu au Naziréat. Eux que le prophète Ésaïe désigne à plusieurs reprises comme les ivrognes d'Éphraïm, avaient écarté le témoignage gênant des Naziréens en les obligeant à faire comme eux. Non contents de cela, ils avaient imposé silence aux prophètes. Ils leur avaient fermé la bouche, leur interdisant de parler de la part de l'Éternel. C'est aussi ce que constatait le prophète Ésaïe en son temps, au chapitre 30 de son livre, les versets 9 à 11, « C'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités, dites-nous des choses agréables, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. » Il demandait aux prophètes d'avoir des visions enjôleuses. Il leur disait de faire cesser loin de leur face le Saint d'Israël. « Supprimez-nous le Saint d'Israël », ainsi que le traduit la version Tob. Le prophète Michée dénonçait la même iniquité au chapitre 2 de son livre, verset 6. « Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. » En résumé, la sainteté des premiers, les Naziréens, les gênait, et le message des autres, les prophètes, les offensait. Cette absence de toute crainte de Dieu allait être la cause d'un jugement sur Israël. Un jugement qui est comparé à un chariot chargé de gerbes au jour de la moisson qui passe, ébranlant le sol sous le poids des essieux. En effet, Amos dit de la part de l'Éternel « Voici, je vous écraserai comme foule la terre un chariot chargé de gerbes. » Chapitre 2, verset 13. Quand la récolte serait engrangée, eux seraient foulés sous les roues. Image saisissante du jugement qui allait atteindre Israël et dont le tremblement de terre annoncé par Amos devait être l'avant-coureur. Dans les versets 14 à 16 du chapitre 2, l'Éternel annonce l'impossibilité d'échapper à ce cataclysme, ni l'agilité pour le fuir, ni la force pour lui résister, ni la vaillance pour sauver sa vie, ni l'habileté à manier les armes pour le combattre, ni le courage pour l'affronter. Tout manquera à l'homme en ce jour-là. Tel était l'arrêt irrévocable contre le peuple de Dieu. Et l'histoire a malheureusement confirmé la véracité de la parole de Dieu. Au fil des siècles, Israël n'a pas guéri de son mal. Le Seigneur Jésus pleura sur le peuple de Dieu, car il tuait les prophètes et il lapidait ceux qui leur étaient envoyés. Il s'écria « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Ces paroles sont rapportées par Matthieu au chapitre 23, les versets 37 et 38 de son évangile. Des fils destinés au ministère prophétique, des jeunes gens au Naziréat, et Israël avait abîmé cette jeunesse-là, cette génération-là. Quelle responsabilité! Lors de l'effusion du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte à Jérusalem, au premier siècle, Pierre a rappelé les plans de Dieu à l'égard de la jeunesse. En effet, l'apôtre a cité l'antique promesse du prophète Joël, peut-être contemporain d'Amos, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. » Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 17. Cette promesse entrait ce jour-là dans son glorieux accomplissement. Et les jeunes avaient leur part dans un pentecôtisme de feu, un mouvement céleste nourri de surnaturel divin. Dieu l'avait décidé ainsi. Nous en avons une illustration avec les quatre filles de l'évangéliste Philippe, heureux papa, dont il nous est dit que ces quatre filles vierges prophétisait. Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 9. Le Saint-Esprit, quand il vient en puissance sur une église, une ville ou un pays, vient avec sa propre stratégie et sa propre méthode de travail, écrit James Stewart dans son livre « Quand l'Esprit descendit », où il relate le réveil du Pays de Galles dans les années 1904-1905. Il ajoute « Ce fut un réveil de jeunes. Evan Roberts, lui-même, qui fut l'instrument puissant entre les mains de Dieu lors de ce réveil, avait seulement 26 ans. Marie, sa sœur, qui prit une part active, avait 16 ans, tandis que leur frère Dan et le futur époux de Marie, Sidney Evans, avait environ 20 ans. Des milliers de jeunes, sitôt convertis, écrit encore Stewart, allaient partout pour témoigner. Les enfants eux-mêmes avaient leur propre réunion de prière et de louange. Les chapelles étaient pleines à craquer de jeunes, garçons et filles. Les nouveaux venus étaient bouleversés d'entendre des jeunes manifestement sans instruction, mais qui priaient avec une telle onction et une telle intelligence qu'ils étaient comme transportés par l'Esprit de Dieu devant le trône de la grâce. James Stewart raconte ce qui s'est passé dans un petit village sur le comté de Cardigan. Là, écrit-il, le pasteur Joseph Jenkins était profondément troublé par la froideur de ses propres prédications et il priait désespérément pour une vie en Christ plus conséquente. Il était accablé en voyant l'indifférence de tous les chrétiens autour de lui et surtout l'apathie spirituelle des jeunes de son église. Il réunit ses jeunes et leur parla sérieusement, d'une manière pressante, de l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Ceci se passait au début de l'année 1904. À la réunion de prière d'un dimanche matin pour les jeunes, le pasteur demanda des témoignages d'expériences spirituelles. Quelques jeunes s'exprimèrent sur différents sujets, mais le pasteur ne les laissa pas continuer. Enfin, une jeune fille se leva, Florrie Evans. Elle s'était convertie quelques jours avant, une magnifique conversion. Elle se leva et dit d'une voix tremblante, « J'aime Jésus-Christ de tout mon cœur ». À ces simples paroles, un frémissement parcourut toute l'assistance. C'est alors que le feu s'alluma, que s'élevèrent les premières flammes d'un feu qui allait bientôt s'étendre dans tout le pays. C'est alors que commencèrent les manifestations visibles de l'Esprit. L'Esprit se répandit comme un fleuve de vie qui allait par la suite toucher des milliers d'âmes. L'écho de la vague de bénédiction dans ce petit village se répandit de toutes parts. Des portes commencèrent à s'ouvrir et ces jeunes de 16 à 18 ans, entraînés par leur pasteur, commencèrent à diriger des réunions dans tout le sud du pays. Le feu gagnait en force et ses flammes irrésistibles bondissaient en avant. Des conventions de sanctification furent tenues dans l'ouest du pays de Galles. Fin de citation. En rapportant ces faits, je ne veux pas dire que Dieu a des plans seulement pour les jeunes. Je souligne simplement le fait que Dieu veut inclure les jeunes, selon ses promesses, dans un pentecôtisme de feu, de consécration, de sainteté, de séparation d'avec le monde, d'ardente intercession et de zèle dévorant pour les âmes dévalant vers l'enfer. Un puissant réveil éclata dans l'île de Timor en 1965. Kurt Kohr en a rapporté l'historique dans son livre « Le réveil de Timor ». Il relate entre autres comment s'est constituée la première équipe timoréenne d'évangélisation. Sa création, écrit-il, remonte au dimanche 26 septembre 1965. Le jeune serviteur que le Seigneur avait choisi avait pris la parole à l'église au cours des cultes du matin et du soir. Un mouvement de repentance se produisit au sein de toute l'assemblée et lorsque l'orateur appela les gens à prendre une décision, plusieurs jeunes se levèrent. C'est ce soir-là que la première équipe fut formée. Notre jeune ami choisit 23 collaborateurs. Cette équipe s'en alla prêcher l'évangile dans toute l'île. Partout où elle arrivait, de nombreuses conversions se produisirent. Beaucoup de guérisons furent accordées par le Seigneur. L'équipe avait reçu 3 dons de l'Esprit. La puissance pour la prédication de l'évangile, le don des guérisons et le don de prophétie. Le pasteur Daniel signale que dans la seule ville de Nikiniki, 700 personnes furent guéries par la prière et l'imposition des mains. En voici d'ailleurs un exemple. En cours de route, ils rencontrèrent un homme paralysé. Ils lui annoncèrent le salut en Jésus, prièrent avec lui et il fut guéri. Fin de citation. Lorsque je considère le paysage pentecôtiste occidental d'aujourd'hui, du moins en partie, pour ne rien exagérer, je précise là-dessus, du moins en partie, pour ne rien exagérer, j'ai le sentiment d'assister à la dérive des continents. Je me suis converti au Seigneur voilà 56 ans. Je garde le souvenir de prédications centrées sur Jésus-Christ, son œuvre de rédemption accomplie à la croix, la nécessité de nous repentir, le renoncement à notre ancienne vie, bref l'Évangile. Cette bonne nouvelle touchait les âgés, les adultes et les jeunes, et elle était confirmée par des guérisons et des miracles. Aujourd'hui, on assiste à la proclamation d'un autre évangile, plus moderne, plus adapté à la société d'aujourd'hui. Il était temps de mettre au placard un message ringard qui n'attire plus personne, fini la vieille Pentecôte, comme ils disent, d'un ton méprisant. Pour attirer les jeunes et remplir les salles, il faut du sang neuf, de l'ambiance, un message tonique, des décibels, des lumières, des kermesses, enfin une sorte de Disneyland évangélique, des repas, beaucoup de repas, de la danse, des sauts de cabri, des déguisements, et j'en passe. Effectivement, les jeunes viennent et remplissent des salles. Une journaliste, faisant un reportage sur une méga-church évangélique en France, prévenait les téléspectateurs en ces termes « Vous n'allez pas assister à un concert rock, mais à un culte évangélique. » Elle a bien fait de nous prévenir. Vous savez, le monde sait reconnaître ce qui vient de lui, ce qui lui a été emprunté. Alors oui, les jeunes viennent. Il faut dire que cet évangélisme revisité, relooké, n'a rien de rebutant pour la chair. Au contraire, elle l'émoustille. Un jeune futur baptisé disait en guise de témoignage « Depuis que je suis venu dans cette église, j'ai retrouvé confiance en moi. » C'est tout ce qu'il avait à dire. Mais qu'ont-ils fait de notre jeunesse ? Le fils prodigue est revenu repentant vers son père. Vous savez pourquoi ? Parce que là où il se trouvait, il mourait de faim, et que dans la maison du père, il y avait du pain en abondance. Des pasteurs ont commis l'erreur de servir aux jeunes les carouges du monde pour mieux les attirer dans la maison. Pire encore, des jeunes sont arrivés avec un petit porcelet sous le bras, un reste de leur ancienne vie de misère. D'autres sont arrivés en compagnie d'une fille non repentante, rencontrée dans un lieu malfamé du pays éloigné, une sorte de trophée sentimental. Et la porte de la maison leur a été grande ouverte. On leur a même mis la plus belle robe sur le dos, sans les faire passer au préalable par la salle de bain. Et on a fait la fête, et on continue de faire la fête. Musique et danse abondent. Et cette jeunesse-là est en train de grandir dans un évangile qu'elle croit être le bon, puisqu'elle ne connaît que celui-là. Elle n'a pas d'autre base de référence pour faire une comparaison. Une équipe de jeunes d'une grande métropole française se livrait à un flash mob, effectuant une chorégraphie, gesticulant dans la rue, et les jeunes ont avoué « Nous ne parlons pas de Jésus, sauf si on nous pose des questions. Nous sommes seulement là pour donner du bonheur aux gens. » C'est-à-dire que des jeunes sont aujourd'hui persuadés qu'on peut donner du bonheur aux gens sans Jésus. Mais c'est lui, Jésus, le Sauveur. Et c'est lui seul qui apporte la vraie joie par le pardon des péchés. C'est en tout cas ce qu'ont proclamé les anges dans la nuit du premier Noël. Chers parents et grands-parents qui m'écoutez, comment nos enfants et nos petits-enfants pourront-ils se convertir s'ils n'entendent pas dans leurs églises respectives l'évangile de la réconciliation, l'évangile qui régénère, cette folie de la prédication de la croix, comme le disait Paul, par laquelle il a plu à Dieu de sauver les croyants. Dieu pourra-t-il faire se lever parmi cette jeunesse des vrais prophètes de feu? Pourra-t-il susciter des Naziréens? Permettez-moi d'en douter. Et il y a les autres, certains jeunes qui ont connu la vraie voie, qui ont vu s'ouvrir devant eux les bons sentiers, qui ont entendu la fidèle parole de Dieu et qui, malheureusement, se sont laissés emporter, séduire, égarer. Dieu les avait conduits dans une consécration redoutable pour Satan. Ils ont violé leurs premiers engagements. Dieu les voulait dans la vie surnaturelle de l'esprit. Ils avaient d'ailleurs commencé à en connaître les délices, mais on les a priés de se taire. On a tué dans leur cœur tout neuf une vie de l'esprit naissante et prometteuse. Pourtant, la parole de Dieu déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 19 « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » Alors y a-t-il un espoir? Bien sûr, comme toujours avec Dieu. Le Seigneur attend un peuple dont les yeux sont ouverts, dont les oreilles entendent les paroles de Dieu, un peuple qui voit la vision du Tout-Puissant, un peuple qui connaît les desseins du Très-Haut, un peuple qui va prendre le sac et la cendre, qui va pleurer devant sa face et crier à lui pour un puissant réveil.